Propose que nous lisions ensemble le dernier chapitre de l'Ancien Testament et le dernier chapitre du Nouveau Testament. Nous commençons donc à Malachie 4. Malachie 4, Malachie 3, d'abord nous commençons Malachie 3, verset 13. Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a été confiée? Et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées. Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. Même ceux qui pratiquent la méchanceté sont établis, c'est-à-dire sont fondés, sont stables. Même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel désormais, au jour que je ferai. Et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4, car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racine ni branche. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez. Et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Nous lisons Apocalypse 22. Apocalypse 22, à partir du verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, le temps est proche. Que celui qui est injuste commettent encore l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Malachi 4 termine l'histoire d'Israël, va jusqu'au millénium. Et nous savons que l'Ancien Testament ne va jamais au-delà du millénium. C'est le royaume qui ne prendra pas de fin, qui sera introduit à Amos par l'ébranlement des cieux et de la terre. Donc l'Ancien Testament se termine par l'instauration et l'établissement donc du millénium. Apocalypse 22 termine l'histoire de l'Église. Il y a beaucoup de contrastes entre Malachi 3 et 4, fin de Malachi 3 et Malachi 4, et puis Apocalypse 22. Mais il y a aussi des parallèles. Nous allons essayer de les relever. Les deux nous parlent d'un jour de venue, de la venue. De la venue du Messie en Malachie, de la venue de l'époux, de la racine de l'étoile brillante du matin en Apocalypse 22. Malachie 3 et 4 sont une bénédiction, une promesse pour les Juifs. Il y a cette particularité relativement à ceux qu'ils craignent. Ça, c'est en Malachie. Il semble qu'on l'a vu 3-4 fois. Trois fois en fin de Malachie 3 et 4. Et puis une fois, chapitre 3, nous n'avons pas lu précédemment, ils ne craignent pas l'Éternel. En Apocalypse 22, il n'est pas question de craindre, il est question d'affection. Il est question des promesses. Par trois fois, le Seigneur Jésus nous dit « Voici, je viens bientôt ». La première fois, c'est lié à la marche chrétienne. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bienheureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est la marche chrétienne. Mais en Malachie 3, nous avons vu ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre et un livre de souvenirs a été écrit. Ceux qui craignent l'Éternel, que font-ils ? Ils parlent l'un à l'autre. Ils s'annoncent l'un à l'autre ce jour de la délivrance, ce jour de venue du Messie, au jour que je ferai, on a lu deux fois, une fois à fin du chapitre 3, une fois au chapitre 4, au jour que je ferai, c'est-à-dire ce jour de justice, de bénédiction, de paix, de tranquillité, de prospérité, que le Messie introduira sur la terre pendant le millénium, c'est futur. Et ce jour que je ferai apportera donc la prospérité. C'est la raison pour laquelle ceux qui craignent l'Éternel sont comparés à des veaux à l'engrais, c'est-à-dire qui débordent d'énergie, qui se portent bien. Un poulain, un veau qui est bien nourri, bien, est lâché dans le pré, mais il gambade. Nous avons tous vu un veau gambader. Il a besoin de se détendre, il a besoin de sauter. Et bien nourri, il a la capacité ainsi de sauter et de gambader. Vous serez conduits comme des veaux à l'engrais, c'est la prospérité. En opposition aux malédictions qui sont présentées dans les versets précédents, passages précédents de Malachie. Le deuxième, voici je viens bientôt, d'Apocalypse 22, se trouve au verset 12. Voici je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Et là, cette fois, alors c'est le service. Bienheureux ceux qui accomplissent le service. Le Seigneur apporte la récompense, il apporte pour rendre, il viendra rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. En Malachie 4, les Juifs qui se rebellent contre l'Éternel, puisque Malachie 3, vers 3, Malachie 3 à partir du verset 13, c'est la rouvette, c'est la révolte ouverte contre Dieu. C'est en vain qu'on sert Dieu. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a été confiée ? Quel profit y a-t-il que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel désormais ? Maintenant nous tenons pour heureux les orgueilleux. Même ceux qui pratiquent la méchanceté sont établis. Même ils tentent Dieu et sont établis et sont ils tentent Dieu et sont délivrés. C'est donc l'opposition entre les Juifs du temps de Malachie en révolte ouverte, mais vraiment ouverte contre Dieu. Et puis la venue du Seigneur qui vient avec sa récompense pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Mais le parallèle est là aussi, nous l'avons lu en Apocalypse 22, au verset 11, avant cette récompense quant au service, au verset 11, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint soit encore sanctifié. Ce qui veut dire que ce soit avant l'établissement du règne, que ce soit à la veille du retour du Seigneur, pour enlever les croyants de l'Ancien Testament et les chrétiens de l'Église, eh bien, il y a et il y aura cette distinction. Et c'est étonnant dans un paragraphe, un passage de grâce d'Apocalypse 22, de voir ce souhait que je relis, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, et en opposition, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint soit sanctifié encore. C'est-à-dire que cette distinction sera toujours marquée, sera toujours réelle, et comment dirais-je, on ne peut pas changer. Le léopard changera, l'Éthiopien changera-t-il sa peau, le léopard effacera-t-il ses taches? Il y a donc non seulement le caractère naturel, mais il y a la disposition intérieure du cœur. Celui qui pratique l'injustice, celui qui se souille, eh bien, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède pour lui. Dans Malachi 4, verset 2, pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice. La guérison sera dans ses ailes. Vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Mais en opposition, vous foulerez les méchants. Au chapitre 3, verset 18, alors vous reviendrez. Qui c'est vous? Eh bien, ce sont ceux qui sont mentionnés à partir du verset 13. Nous. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge? Quel profit y a-t-il que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel? Nous tenons pour heureux les orgueilleux, etc. Alors, verset 18, vous, ceux qui avez osé, vous qui osez porter ces reproches, ces accusations contre Dieu, vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne le sert pas. Et comment feront-ils cette différence? Eh bien, le juste, celui qui sert Dieu, sera délivré. Celui qui ne le sert pas sera puni. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Le Seigneur dit, deux moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Laissée pour le millénium, prise pour le jugement. Deux seront dans le même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Laissé pour le millénium, pris pour le jugement. Livré, qui sera mêlé en bottes, qui sera réuni en bottes, et qui attendra d'être brûlé. Donc, que ce soit fin de Malachi, que ce soit fin d'Apocalypse, nous voyons de façon très claire cette différence entre le juste et l'injuste, celui qui se révolte contre Dieu, celui qui se soumet à Dieu et qui écoute sa parole. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Ils parlent de ce que Dieu a promis dans les prophètes et ils attendent la réalisation des semaines de Daniel. C'est ce que nous voyons au début de l'Évangile selon Luc. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Magnifique résidu d'un Zacharie, d'un Élisabeth, d'une Marie et d'un Joseph, d'un Siméon et d'une Anne, qui tous se réjouissent en l'Éternel son Dieu. Et Siméon qui peut dire maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Étonnant et remarquable que Siméon ait été averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Libérateur, le Messie, loin, le bien-aimé de l'Éternel. Il le reconnaît, il le prend dans ses bras et il rend grâce à Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Non pas tant l'acte, mais celui qui apporte le salut, celui en qui est le salut. Et puis Anne qui parlait de la délivrance à tous ceux qu'elle rencontrait dans le temple. Quel magnifique résidu, quel privilège nous avons de, quand nous pouvons parler l'un à l'autre, nous entretenir des promesses que nous lisons ici en Malachie 3.4 et que nous lisons ici pour le peuple juif, peuple terrestre, promesses terrestres, et puis ces promesses que nous lisons en Apocalypse 22, promesses célestes. Le troisième « Je viens bientôt » en Apocalypse 22 se trouve au verset 20. « Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et là, la marche chrétienne, la fidélité, c'était au verset 7. Le service pour à la gloire du Seigneur, c'était au verset 12. Tout cela s'est passé. Que reste-t-il? Quelle est la dernière ressource? C'est la profonde affection, non pas l'affection, l'amour de Christ pour son assemblée. Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Et pour dans le temps présent, il la sanctifie par lavage d'eau, par parole. Pourquoi faire? Pour se la présenter à lui-même. Comment? Glorieuse. La lune qui réfléchit la lumière du soleil, glorieuse. Et c'est celui qui est la grâce en lui-même. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, car de sa plénitude, nous tous avons reçu et grâce sur grâce. Celui qui est grâce sur grâce nous dit « Je viens bientôt ». Et que veut-il faire ? Eh bien, comme dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé veut réveiller sa bien-aimée. Lève-toi, ma bien-aimée, lève-toi. L'hiver est passé, l'hiver est terminé, la pluie est passée, les fleurs se poussent dans la nature, la voix des colombes se fait entendre. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et que de fois, dans le Cantique des Cantiques, c'est tout un sujet intéressant, mais pas maintenant. La façon dont le bien-aimé réveille la bien-aimée, et quelquefois d'ailleurs par une discipline un peu sévère. Elle a été frappée par les gardes qui lui ont ôté son voile, etc. Nous revenons à Malachie. Une promesse magnifique, la fin du chapitre 3. Alors je relis à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et quel est le résultat? L'Éternel a été attentif. N'est-ce pas la preuve d'une bénédiction assurée. Bénédiction assurée. Pourquoi? L'Éternel a entendu. 1 Jean 5, verset 14, c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Il nous écoute. Que nous puissions, conduits par l'Esprit, faire des demandes, en effet, pour que lui, lui, c'est à la fois Dieu, c'est à la fois le Fils, c'est toutes les promesses que la déité là, apporte. Ici, en Malachie 3.16, l'Éternel a été attentif et a entendu. Alors un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Nous comprenons bien qu'ici, le verbe craindre, ce n'est pas avoir peur. C'est le sens de ce verbe craindre dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est-à-dire le désir de répondre de faire la volonté de Dieu, de ne pas nous écarter, de ne pas le déshonorer. Ceux qui craignent l'Éternel, qui reconnaissent sa suprématie, qui reconnaissent son autorité, qui reconnaissent sa grandeur, et qui découvrent alors, derrière sa grandeur et cette majesté, cette souveraineté de Dieu, qui découvrent ces caractères de bonté et de miséricorde. L'Éternel a entendu, a été attentif. Alors un livre de souvenirs a été écrit. Pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui pensent à son nom, ils seront à moi. Regardez la description, ce qui caractérise, ceux qui sont à l'Éternel, ceux que l'Éternel reconnaît comme étant les siens. En Hébreux 11, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. C'était les saints de l'Ancien Testament. Ici, c'est pareil. Ils pensent à son nom. Ils sont à moi, mon trésor particulier. On va dire, oui, bon, mais ça, c'est la fin de... Ça, c'est Malachi 3, c'est pas pour nous. Mais si Dieu apporte un tel soin aux saints terrestres, à combien plus forte raison apporte-t-il le même soin pour ceux qu'il appelle ses enfants, ceux pour lesquels il est le Père. Je ne sais pas si dans le Nouveau Testament il est parlé du trésor particulier lié aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas, c'est possible. Un frère pourra les donner. Et alors, ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai. Alors je répète, ce jour que je ferai, ce n'est pas le jugement, c'est le Messie qui introduit la justice, la paix, le salut, c'est la bénédiction millénaire. Alors vous reviendrez. Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors on retourne en Apocalypse 22. Et nous voyons Apocalypse 22, verset 19, verset 18. « Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, croyant ou non d'ailleurs, que si quelqu'un ajoute ces choses, ajoute à ces choses, c'est-à-dire bien sûr à ce que Jean écrit dans l'Apocalypse, mais étant donné que l'Apocalypse termine quand même non seulement le Nouveau Testament, mais l'ensemble de la Révélation, l'ensemble de l'Écriture inspirée, on peut bien penser que ajouter quoi que ce soit à ces choses, c'est non seulement l'Apocalypse, non seulement les prophéties, mais c'est aussi tout l'Ancien Testament. Et on retrouve ceux qui craignent l'Éternel, qui parlent l'un à l'autre. De quoi ? Eh bien justement, de ce que l'Éternel a promis dans tous les prophètes qui précèdent Malachie. Alors le résultat, c'est que Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et ces plaies écrites dans ce livre, c'est clair, sont les jugements d'Apocalypse, terribles. Mais ce sont aussi les plaies déjà que Moïse déjà a annoncées aux Juifs, si vous détournez de l'Éternel, si vous n'écoutez pas, Deutéronome 4 en particulier. Bon. Dieu ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un ôte quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie, de la sainte cité, qui sont écrits dans ce livre. Un livre de souvenirs a été ouvert. Alors c'est fin de verset 16, milieu du verset 16. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui pensent à son nom, ils seront à moi, mon trésor particulier. C'est ce livre par lequel le sang, difficile de parler de le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament, mais il est quand même question du support des péchés précédents par l'œuvre de Christ. Et puis dans le Nouveau Testament, effectivement, Ce sont ceux qui ont bienheureux, verset Apocalypse 22, 14, bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, qu'ils entrent par les portes de la cité. Eh bien, si quelqu'un ôte quelque chose des paroles, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie, de la sainte cité, qui sont écrits dans ce livre, ils ont leur nom écrit dans le livre, peut-être dans les registres de baptême, qui est présent actuellement dans toutes les religions de masse, disons, de forme, de nom. Alors on a le nom de baptême, tel jour, etc. C'est la profession chrétienne. Le baptême, on revêt Christ. On porte le nom de Christ. Et on déclare que nous sommes chrétiens, que nous sommes liés à Christ. On déclare reconnaître l'autorité de Christ. Mais s'il n'y a pas la réalité, eh bien, ce nom sera effacé. Deuxièmement, chapitre Apocalypse 22, verset 15, « Dehors, vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui tentez Dieu, vous qui ont des paroles fortes contre l'Éternel, et qui dites, vous qui dites, à quoi ça sert de servir Dieu? Nous tenons pour heureux les orgueilleux. Eh bien, à vous. » En Apocalypse 22, alors verset 15, nous avons « Dehors sont les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et fait le mensonge. » Nous avons déjà en Apocalypse 21, verset 8, « Mais quant aux timides et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre qu'est la seconde mort. » Voyez que cette réalité de la bénédiction, de la vie pour les uns, du jugement éternel pour les autres, parcourt toute la parole de Dieu. Alors, en Malachie, bien sûr, je répète, vous ferez la différence, on a déjà parlé, entre le juste et le méchant, il sera délivré, il sera laissé pour entrer dans le millénium, alors que le méchant et celui qui ne sert pas Dieu sera pris pour le jugement. C'est le jugement de Matthieu 25, des brebis et des chèvres. Vous voyez donc que le parallèle est assez précis et assez étonnant entre la fin de l'Ancien Testament et la fin du Nouveau. On dirait, mais pourtant il n'y a pas de rapport. L'un c'est pour des bénédictions terrestres, l'Apocalypse introduit les bénédictions célestes. Eh bien, vous voyez que les caractères, les conditions, les descriptions sont bien semblables. Pas égal, pas analogue, mais bien semblable. Alors je veux avancer. Malachie 4. Voici le jour vient, brûlant comme un four. Tous les orgueilleux, tous ceux qui pratiquent la méchanceté, seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel désormais, de manière à ne leur laisser ni racines, ni branches. En Job, il est dit que quand on coupe un arbre, on laisse les racines dans le sol, la souche dans le sol, et Job dit qu'à l'odeur de l'eau, il repoussera. D'où l'Éternel prend bien soin ici, en Malachie 4, de dire, de manière à ne laisser ni racines, ni branches. Il n'y a plus aucun espoir qu'il repousse, qu'il renaisse, qu'il se développe à nouveau. Non, c'est fini. Il ne reste plus rien, ni racines, ni branches. Et ils seront du chaume. Et au verset 3, vous le foulerez comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. Alors là, il y a une très grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est-à-dire que quand le Seigneur viendra nous prendre, nous n'allons pas fouler sous nos pieds ce qui reste. Ce n'est pas notre affaire. Il est bien dit en Apocalypse 19 que les saints le suivent, vêtus de vêtements blancs. Ce sont les rachetés, vêtements blancs, donc qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, tel que nous l'avons vu en Apocalypse 22. Bienheureux ceux qui lavent leur robe. Mais il y en a qu'un qui, dont l'épée sort de sa bouche. Il y en a qu'un. C'est celui qui est monté sur le cheval blanc. Les saints qui le suivent n'ont pas d'épée. Ce ne sont pas les saints qui exercent le jugement. C'est le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur seul. L'introduction de la bénédiction millénaire exigera la destruction de tous les ennemis, de tous qui s'opposent à Dieu, de tous ceux qui s'opposent à Dieu, de tous ceux, Gog et Magog, Apocalypse fin 19, une fois que Satan est délié, qui s'opposeront. Et alors on voit en effet en Michée que les hommes de Juda seront comme un feu, comme un jeune lion, et ils dévoreront tous ceux qui veulent s'opposer au Messie, au prince qui viendra. Et en effet, ce seront les saints qui exerceront aussi un jugement sur vous dont parle Malachie, vous qui ont des paroles fortes et qui s'opposez, qui tentent Dieu, qui s'opposent ouvertement à Dieu. Et alors, effectivement, les fils de Juda, pour garder l'image, non pas l'image, mais l'annonce de Michée, je crois que c'est Michée 5, comme un feu, eh bien, ils brûleront, en effet, et ils fouleront les méchants, ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Les chrétiens, ils n'auront pas le temps d'exercer une vengeance, c'est pas à eux. C'est pas à nous d'exercer une vengeance quelconque. Ne vous vengez pas, bien-aimé, dit le Seigneur, ne vous vengez pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il veut prendre ton vêtement, ben donne-lui aussi ton manteau. Et ces versets que nous avons lus dans l'Apocalypse nous parlent donc de grâce. Et sous quelle forme se présente le Seigneur? Premièrement, racine et postérité de David, donc qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Mais surtout pour nous, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin n'a jamais consumé personne. Elle annonce quoi? Elle annonce le lever du soleil. Elle annonce l'aurore, elle est visible à l'aurore. Elle annonce le lever du soleil. Alors, est-ce que c'est un jour brûlant comme un four? Est-ce que c'est le soleil de justice, Malachie 4, verset 2, le soleil de justice, la guérison sera dans ses ailes, vous sortirez et vous prospérerez, mais vous foulerez les méchants. Nous disions donc que le millénium ne peut être introduit que par le jugement de ceux qui s'opposent à Dieu. La venue du Seigneur, annoncée par l'étoile brillante du matin, et Pierre nous dit que non seulement nous la voyons, mais Pierre nous dit qu'elle est levée dans nos cœurs, de Pierre 1. L'étoile brillante du matin qui est levée dans vos cœurs. Ce qui veut dire que cette étoile brillante du matin levée dans mon cœur, dans le vôtre, annonce quelque chose d'assuré. C'est-à-dire que cette promesse, ces trois, oui, je viens bientôt, que nous avons lu en Apocalypse 22, c'est quelque chose d'assuré. Le résultat, pour Malachie, c'est l'heureuse introduction du règne, mais par le jugement sévère et la mise à mort, brûlée comme du chaume de tous ceux qui s'opposent à l'Éternel. Quel est le résultat lorsque le Seigneur se présente à son Église comme étant l'étoile du matin? Elle est non seulement l'étoile du matin, mais elle est brillante. Ça veut dire qu'on ne peut pas la confondre avec d'autres. Et en effet, si on ne peut pas confondre l'étoile du matin, Vénus, avec les autres, même si c'est une planète. Alors le résultat, c'est que l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et si dans l'Ancien Testament, les fils de Judas, les Juifs, seront obligés, disons, de détruire le roi du Nord dans ses confins, l'Assyrien, le roi du Nord, pendant qu'il sera en Égypte, eh bien, le croyant, pour lui, n'a pas en vue un jugement, une condamnation, une destruction. Au contraire, nous avons en vue le salut de ceux qui nous entourent, le salut de ceux que nous côtoyons. Et alors, si l'étoile brille, puisque l'étoile brillante du matin est levée dans nos cœurs, nous disons à cette étoile, viens, et nous l'attendons d'un moment à l'autre. Nous pouvons très bien ne jamais sortir de cette salle. Et puis, non seulement nous disons au Seigneur, viens, mais il y a un autre appel, avec le même verbe, que celui qui entend dise, viens. Vous qui êtes sauvés, qui avez le salut, qui possédez le salut, mais qui n'êtes pas bien au courant du retour du Seigneur, puisqu'hélas maintenant dans l'église évangélique qui il y a 15 ans dans le dictionnaire biblique annonçait la venue du Seigneur en grâce, dans la nouvelle édition, le même rédacteur mélange la venue du Seigneur en grâce pour enlever les siens et la venue du Seigneur en gloire pour établir son règne. C'est-à-dire, on confond Malachie 4 et Apocalypse 22, c'est quand même bien dommage. L'une, c'est la bénédiction céleste, et le monde ne le verra pas. Le Seigneur venant, il viendra sur les nuées, alors que quand le Seigneur viendra en gloire, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, ils se lamenteront, ce sera trop tard. Et alors, que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, cette fois c'est peut-être celui qui n'a pas la vie, dans nos maisons, dans nos familles, dans le rassemblement local. Dans le rassemblement local, quelqu'un aurait soif et n'aurait pas bu à la source divine. Celui qui boira de cette eau-là n'aura jamais soif. Eh bien, nous disons, viens. Que celui qui a soif vient, et que celui qui veut, l'esprit produisant ce désir dans les cœurs, prenne gratuitement de l'eau de la vie, s'approprier l'eau de la vie, l'eau de vie, la vie éternelle. Et le Seigneur disant, je le ressusciterai au dernier jour. Et là, il n'est pas question de résurrection, il est question d'enlèvement à sa venue. Un petit mot sur le dernier paragraphe de Malachie 4, je ne voudrais pas être trop long. Ah si, quand même, si. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Mais ça faisait 1000 ans que l'Éternel avait donné la loi en Horeb à Moïse. C'est passé. Non seulement c'est passé, mais c'est dépassé. Il faut se tenir au courant. Il faut aller avec l'air du temps, avec l'évolution des civilisations. 1000 ans que l'Éternel a donné la loi à Moïse. Que dit l'Éternel en Malachie ? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb. Et non seulement pour les Juifs auxquels il s'adressait, mais pour tout Israël, c'est-à-dire les 10 tribus dispersées, et on ne sait pas du tout où ils sont. Qu'est-ce que ce sont ? Ce sont des statuts et des ordonnances. Alors nous avons déjà vu l'équivalent de ne rien ajouter, de ne rien modifier, de quoi ? Répétons, de ce que l'esclave a donné à Jean pour que Jean le donne à l'assemblée, donc l'Apocalypse, Révélation. Mais comme l'Apocalypse, je répète ce que j'ai dit, termine la parole de Dieu tout entière, eh bien, c'est de ne rien ajouter, de ne rien trancher, surtout ne rien modifier à la parole de Dieu tout entière. Voilà le parallèle, une identité, l'importance de la parole de Dieu tout entière. Continuons. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Alors, bien sûr, en Luc 1, l'annonce que... Ah oui, mais je vais perdre mes pages, tant pis. Luc 1, lorsque l'ange Gabriel annonce à Zacharie près de l'autel la naissance de son fils Jean le baptiseur, l'ange lui dit bien, il sera pour toi, verset 14, Luc 1, 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il sera grand devant le Seigneur. Il sera nazaréen, il ne boira ni vin ni savoise. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et que fera-t-il? Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc il est clair que la première application de Malachie 4, verset 6, de ce Élie, c'est Jean le baptiseur. Et le Seigneur le dit bien, un peu plus loin, lorsque les disciples lui demandent pourquoi les pharisiens disent qu'Élie doit venir. Le Seigneur leur dit bien, mais moi je vous dis que Élie est venu. Et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et là, j'insiste encore, ce n'est pas la première fois, il n'y a pas si longtemps que j'ai insisté là-dessus. Ils ont fait à Élie tout ce qu'ils ont voulu, mais ils n'ont jamais fait au Seigneur tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait au Seigneur ce que Dieu le Père, selon ses conseils, avait déterminé devoir être fait, acte 4. Moi, je vous dis qu'Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Alors les disciples ont compris qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Mais ce n'est pas tant cet Élie-là dont il est question. C'est plutôt Apocalypse 11. Et Apocalypse 11, ce sont ces deux témoins, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait que deux d'ailleurs, ça veut dire un témoignage complet à Jérusalem. Nous lisons Apocalypse 11, verset 4. Verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai puissance à mes deux témoins. Ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. C'est-à-dire le temps de la grande tribulation de 2 années et demie. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Regardez bien. Si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ça nous rappelle qui? Élie, de roi 1, lorsque le roi envoie le chef de cinquantaine avec sa cinquantaine. Élie, le roi dit, descends. Ah ben, si je dois descendre, que le feu descende du ciel et te consume, toi et ta cinquantaine. Le feu descend du ciel et les consume. Qui? Ceux qui veulent leur nuire. Et puis par deux fois. Et le troisième, alors le chef de cinquantaine monte humblement vers Élie. Et Élie le suit vers le roi. Et puis continuons alors à Apocalypse 11. Si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit mis à mort. Verset 6. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Ça vous rappelle qui? Ben Élie, bien sûr, le prophète Élie. Et il faut aller dans Jacques pour apprendre qu'il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie durant 3 ans et demi. Et ce que l'on sait d'après le livre des Rois, très intéressant d'ailleurs d'avoir la position d'Élie, c'est Élie qui monte au Carmel tout seul et qui met sa face entre les genoux et qui demande à l'Éternel que la pluie revienne. Mais Donc ces deux témoins, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont que deux, mais un témoignage fidèle maintenu à Jérusalem, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Ensuite, ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Qu'est-ce que ça nous rappelle ? Moïse en Égypte, les plaies de l'Égypte, frapper la terre de toutes sortes de plaies, et en particulier parmi une de ces 10 plaies, de changer les eaux en sang. Donc les Élie, celui qui doit venir avant que vienne le jour terrible de l'Éternel en jugement, ce sont bien ces prophètes d'Apocalypse 11. Alors, Malachie 4, il faudra retourner le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Voilà, donc Élie est venu, c'était Jean le baptiseur. Ils n'ont pas reçu ni Élie, ni celui qu'il annonçait, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand l'Église et les croyants de l'Ancien Testament seront enlevés, il y aura ce témoignage maintenu à Jérusalem, Apocalypse 11. Par quoi se termine la prophétie de l'Ancien Testament ? Que je ne frappe le pays de malédiction. Quelle est la prophétie par laquelle se termine, quelle est l'annonce par laquelle se termine Apocalypse 22, que la grâce soit avec tous les saints. Quelle différence, quelle bénédiction, quel privilège. Et nous pouvons bien dire Amen, viens Seigneur Jésus. Ce n'est pas forcément le Seigneur Jésus qui répond, c'est le souhait de l'Esprit, c'est le souhait qui termine toute la Bible que nous avons entre les mains. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints.
Juste une expression dans le ce complémentaire, enfin qui va dans le même sens de tout ce qui a été dit. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. Alors je passe les détails. Verset 6, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation. Puis ensuite, alors, ce chapitre de Matthieu 24 est souvent utilisé par ceux qui affirment que l'Église passera par la grande tribulation, grande tribulation dont il est question un peu plus loin. Mais l'expression que je souligne, c'est début du verset 7, « la fin n'est pas encore ». C'était tout à fait remarquable que dans Apocalypse 22, et puis il y a d'autres passages, c'est La fin est proche, je viens bientôt. Et puis là, Matthieu 24, il dit, mais la fin, c'est pas maintenant. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, c'est justement, je viens bientôt, c'est pour l'enlèvement de l'Église, la venue du Seigneur pour prendre les siens, et la fin n'est pas encore, c'est quand ça concerne les choses de la terre, les jugements, la grande tribulation, etc.
Je voudrais juste ajouter un verset justement qui marque aussi l'importance de cette différence entre ces deux jours, le jour de l'enlèvement de l'Église que nous désirons et ce grand jour de jugement dans Amos 5, verset 18. Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. À quoi vous servira le jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière, comme si un homme s'enfuyait devant un lion. Ce jour là dont il est question, puisque l'enlèvement de l'Église n'est révélé que par l'apôtre Paul. Et c'est une espérance chrétienne que les Juifs n'avaient pas. Et donc, de confondre les deux choses nous met sous cette terrible malédiction.